Elliot Lemayour. Donc, je suis médiateur pour l'exposition Quelques mesures d'écart à l'espace culturel de Lille. Donc, c'est le Fonds régional d'art contemporain qui nous a prêté les œuvres du 10 mars au 18 avril et qui rentre en fait dans le programme de l'espace culture qui est l'évaluation, enfin le corps et la mesure en général. Déjà, commencer par l'œuvre d'Otto Berchem, je pense que c'est la meilleure base, qui est l'œuvre sonore, donc en 3D. En fait, Otto Berchem l'a donné au FRAC, donc cette œuvre n'a pas été vendue. Et ça correspond à toutes les œuvres qui ont été données au fur et à mesure ou achetées à des artistes. Et donc, ils sont cités chronologiquement. Donc, l'œuvre d'Otto Berchem, c'est déjà une référence à chaque artiste qui a été exposé par le FRAC. Et c'est aussi une manière d'évaluer ce que ressent le spectateur par rapport à son œuvre. En fait, là, on est dans la première partie de l'exposition, donc l'évaluation du spectateur, à savoir qu'il y a une évaluation sur la connaissance. Donc, en citant tous les artistes, ça incite le spectateur à se demander s'il connaît ces artistes ou non, s'il sait les resituer dans l'histoire de l'art. Et ensuite, l'évaluation de l'absurdité. Donc là, on est sur le name-dropping, c'est-à-dire qu'on balance des noms au fur et à mesure comme ça, sans vraiment que ça ait de sens. Par exemple, si on n'explique pas ce qu'est l'œuvre au spectateur, il se demande, et c'est arrivé plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et au final, est-ce que c'est une œuvre d'art? Donc Otto Berchem, lui, il voulait dénoncer d'une part le name-dropping, et ensuite l'évaluation de l'inutilité. C'est-à-dire qu'il a fait un travail qui est assez conséquent, justement, de citation. L'œuvre sonore, il y a eu un travail derrière, mais qui au final n'a pas d'utilité, n'a pas de sens véritable. Donc on est sur l'évaluation de l'inutilité. Donc là on rentre dans la première partie de l'exposition, voilà, pour Otto Berchem. Et ensuite pour rester sur l'évaluation du spectateur, là on a l'œuvre de Maddalena Franito Di Giorgio, donc Tabou, qui évalue en fait la perception du spectateur quant à l'équilibre que représente cette sculpture.
Oui. Donc c'est une colonne verticale, un empilement de livres et de on va dire de ballons de baudruche. Hein.
Oui, les ballons de baudruche qui en fait sont en polystyrène. Donc ils sont creux, mais les parois sont en polystyrène. L'extérieur est verni justement pour donner ce côté ballon. Et tous les livres qui sont dans la sculpture commencent par l'art de. L'art de la paix, l'art de la guerre, etc. Et en fait, l'artiste, ce qu'elle voulait montrer à travers ça, c'était elle, ce qu'elle voulait montrer de son travail, et au final, ce qui en était montré à travers les expositions ou ce qui plaisait au marché de l'art. À chaque fois, resituer en fait son désir et ce qui en est perçu, et au final, comment ça peut influencer elle, son art. Par exemple, en fonction de ce qui plaît au marché, comment elle va adapter son art et sa sculpture à celui-ci. Et donc, pour en revenir au sens propre de l'œuvre, Magdalena, elle va interroger en fait la subjectivité de l'équilibre du spectateur. À première vue, la sculpture paraît complètement déséquilibrée parce que des ballons qui tiennent des livres, ça paraît justement absurde. On en revient à l'œuvre d'Otto Berchem. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez une structure en fil de fer qui maintient toute la sculpture. Donc, à première vue, elle paraît déséquilibrée, mais en fait, elle ne l'est pas, puisque vous avez une structure interne qui la garde en parfait équilibre. À savoir aussi que plusieurs fois, avec des spectateurs, on s'est interrogé sur l'équilibre qui se crée entre l'art et la connaissance. Donc, vous avez tous ces livres qui représentent la connaissance et l'art en lui-même qui est représenté par la sculpture. Et donc, au final, est-ce que les deux associés ne forment pas un équilibre? Et donc, on retrouve cette sculpture ici présente. Alors ici c'est l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud, donc le mur aux deux anneaux. Jean-Pierre Reynaud c'est un artiste assez atypique parce qu'il a jamais voulu faire de présentation publique, et il reste très discret. Lui il est surtout dans la symbolique, et donc dans la symbolique mais de la signalétique. Il travaille énormément sur les panneaux de signalisation, l'environnement urbain, etc. Et donc avec ses psycho-objets, il va recréer un univers tout à fait stérilisé, où l'humain en fait transparaîtra, mais uniquement via la mesure, via le matricule, les chiffres, quelque chose de très géométrique. Au final, il n'y a pas de personnification, il n'y a jamais de figure dans ce qu'il fait. Toujours, enfin, tout est toujours symbolique, et on retrouve justement à travers les numéros en rouge sur blanc cassé le constant besoin de tout mesurer de l'humain. de tout évaluer, de la subjectivité de la mesure, mais l'objectivité de l'évaluation. C'est-à-dire que les mesures, et on y reviendra avec l'œuvre de Stanley Brown après, la mesure, elle est déterminée par des critères subjectifs. C'est ici qu'on rentre dans la deuxième partie d'ailleurs de l'exposition, où on est dans la mesure et les outils de l'évaluation. Ici, ce qu'il veut montrer, c'est justement que l'homme est emprisonné dans ce constant besoin de mesure, et on le retrouve avec les deux anneaux, justement, on est enchaîné en tant qu'humain à ce conditionnement numérique. Et on le retrouve avec ces couleurs criardes, justement, de rouge sur blanc, qui nous rappellent effectivement le paysage urbain et la signalisation. Et on va passer à celle-ci, parce qu'on passe dans la deuxième partie de l'exposition. Donc, qui est l'œuvre de Stanley Brown, donc c'est One Meter, One Step, où en fait l'artiste a voulu mettre en parallèle deux types de mesures. Donc, d'une part, son pas, qu'il a représenté avec une règle en métal, qui est ici, et de l'autre, le mètre, donc une mesure normée. Ici, il confronte justement la mesure normée et la mesure corporelle. Et on revient justement sur cette deuxième partie de l'exposition, où on est dans l'objectivité de l'évaluation, on a besoin d'évaluer en tant qu'être humain, parce que c'est comme ça qu'est née l'architecture, on en a besoin de toute manière. Mais par contre, la subjectivité des critères d'évaluation, c'est-à-dire que le mètre, au final, que représente-t-il ? Ce n'est pas une mesure objective. Et donc Stanley Brown, lui, c'était un petit peu comme Jean-Pierre Reynaud, mais en beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il ne se présentait jamais à ses expositions. Il écrivait toujours son nom en minuscules. Et pour lui, en fait, l'artiste n'avait pas son importance. C'était l'œuvre qui suggérait quelque chose au spectateur et pas l'artiste. Et d'ailleurs, c'était grâce au regard du spectateur qu'un objet devenait une œuvre d'art. Donc, on restait au final dans le critère d'évaluation. Qui détermine qui est œuvre d'art ? C'est le spectateur et pas l'artiste à proprement dit. Donc voilà, il avait une œuvre en fait qui consistait à donner un plan à plusieurs personnes avec un point A et un point B et leur demander justement de relier les deux points. Et il s'est rendu compte qu'au final, qu'on le donne à 5000 personnes, on aura 5000 résultats différents. Les critères de distance, d'évaluation sont différents chez chacun et on aura tous une manière différente de représenter un parcours. Voilà, pour Stanley Brown. Alors ici, on va passer à la troisième partie de l'exposition. Donc là, c'est l'évaluation de l'art contemporain par l'artiste. Donc c'est l'artiste qui resitue son art ou l'art contemporain dans l'histoire de l'art ou dans la société actuelle. On va peut-être commencer par Benjamin Vautier, donc Ben, qui est bien connu aujourd'hui puisque son art est très médiatisé et très commercialisé. On le retrouve dans des objets du quotidien, tels des stylos, des agendas pour les plus jeunes, etc. Et donc sur la première toile, et si l'art n'existait pas, en fait, il remet en cause la réception de l'art aujourd'hui, l'interprétation que les gens en font, avec quelque chose de très minimaliste au final. Cela reste de l'art, certains le démentiront, mais pourtant, on en a besoin. Et si l'art n'existait pas, où en serait-on ? Ben a toujours été justement dans la remise en situation et la légitimité de l'art dans l'histoire de l'art, et dans ce que perçoivent les gens. On le voit avec l'autre toile aussi, où là, l'artiste a justement voulu montrer lui-même l'évolution de la réception de l'art. Donc de cette toile, on avait dit, en 1962, ce n'est pas de l'art, en 1970, j'ai déjà vu cela, en 1980, c'est trop classique. Donc il a ce constant besoin de resituer la réception de son art et de l'art contemporain dans l'histoire de l'art. Voilà. Avec une écriture blanche sur noir qu'on ne peut pas louper, qui est très explicite. Alors toujours dans cette troisième partie de l'exposition, on a les deux œuvres Gedicht, qui font partie, c'est les deux mêmes œuvres de Marcel Broutars, qui avait fait des études de chimie à la base, qui a arrêté pour se lancer dans les poèmes. Et on retrouve justement ici les mots poèmes en haut des œuvres. Et il a cherché en fait à compter le nombre de lettres de ses initiales qu'il pouvait retrouver dans chaque poème. Donc c'est pour ça qu'on retrouve 28 initiales tout en haut, ensuite 10, ça correspond à chaque poème. Donc dans le premier poème, il a retrouvé 28 initiales, dans le deuxième, 10. Là, il y a cette évaluation de lui-même, au final, dans ses propres œuvres. Dans la deuxième, par contre, là, il va chercher à faire une monétarisation de ses initiales, à évaluer son nom dans ses œuvres, et on retrouvera les devises en Deutschmark, en francs français, en livres et en dollars. Donc lui, ce qu'il voulait montrer, c'était au final l'évaluation qui est partout aujourd'hui sur le marché de l'art, ou même vis-à-vis de soi. Je pense qu'un artiste est toujours en train de s'évaluer aussi, de vouloir resituer son œuvre. On en revient à ce qu'on disait sur Ben d'ailleurs. Et Marcel Broutard, à savoir qu'il n'a pas fait que ça. Là, c'est très plus classique dans la technique et dans la représentation. Mais avant ça, il a fait, par exemple, des compositions avec des moules, avec des coquilles d'œufs. Il a fait une toile notamment avec des coquilles d'œufs et le mot moule marqué dessus. Une toile qui s'appelait L'Erreur. Et donc, on retrouve la dérision et l'humour, justement, dans son œuvre. Un artiste polyvalent qui a fait des poèmes, des sculptures, de la composition et de la sérigraphie avec ces deux toiles. Et donc, dernière œuvre de l'exposition, toujours dans l'évaluation de l'art, dans l'histoire de l'art, on a le lancer du refoulement, du collectif Présence Panchounette. Donc c'est un collectif qui a été créé en 1968, mais pour l'anecdote, ils n'ont annoncé leur création que l'année suivante pour ne pas être associés au mouvement de 1968, des universitaires. Donc eux, ils ont commencé par faire des détournements, des fausses scènes d'accidents sur leur campus universitaire, ou à mettre des objets kitsch, un petit peu partout. Et leur objectif initial, c'est vraiment de montrer la dérision, l'idiotie, l'absurdité dans l'histoire de l'art. C'est pour ça qu'on retrouve dans cette composition, justement en bas, une référence à l'art antique avec le disco ball qui est attribué à Miron le plus souvent, avec les assiettes qui rappellent justement l'art kitsch, et avec les inscriptions qui retracent, en fait, qui correspondent à l'art contemporain et qui retranscrivent tout ce qu'on a pu penser à travers différents auteurs de l'art contemporain. À travers l'histoire de l'art. Le collectif Présence Panchounette, eux, ils voulaient vraiment montrer le côté dérision de la réception de l'art, justement, à travers les époques, en confrontant, justement, toutes ces époques, en les réunissant pour faire quelque chose de nouveau. Ils se moquaient, par exemple, des peintres grecs qui ne se basaient pratiquement que sur la technique ou sur quelque chose de très sérieux, la philosophie avec les penseurs grecs. Mais à travers ça, ils voulaient montrer que tout était art et que n'importe qui pouvait en faire. On fait d'ailleurs référence à Marcel Duchamp, un très grand artiste du XXe siècle, qui attribuait justement le rang d'œuvre d'art à un objet, les ready-made de Marcel Duchamp. Donc c'était le premier à pouvoir déterminer qu'un simple objet de la vie de tous les jours pouvait être une œuvre d'art. On retrouve cet esprit justement avec le collectif Présence Panchounette qui a fait diverses manifestations comme ça. Et pour terminer, à la fin, justement en étant dans la dérision et dans la satire, ce collectif a commencé à être connu et reconnu par les galeristes, et ils ont arrêté à partir du moment où on a voulu les exposer en disant que leur réussite était leur échec.